Vous écoutez RTL.
Il est 15h et presque 4 minutes, vous êtes sur RTL avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie.
Bonjour Marie Guerrier. Marie, on vous retrouve à 16h.
Bien
vous
sûr.
L'actualité.
À tout à l'heure.
Merci. Est-ce que ça vous dit une heure de vie d'expat? Allez, décollage immédiat sur RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie de répondre présent à notre invitation en ce vendredi si particulier où les cœurs battent à l'unisson. Nous adressons toutes nos pensées aux proches de ceux qui sont tombés sous la furie assassine et nous partageons bien évidemment leur peine. D'ailleurs, RTL aujourd'hui est aux couleurs de la France. RTL est bleu, blanc, rouge. Nous sommes ensemble en direct, bien sûr, sur RTL jusqu'à 16h et aujourd'hui nous allons partir en voyage en Afrique, au Vietnam, en Allemagne et ailleurs d'ailleurs si vous nous appelez au 32-10. 2,5 millions de Français ont choisi de vivre hors de nos frontières. Besoin de prendre un nouveau départ, de changer de décor, de vivre d'autres expériences, de sortir de sa zone de confort, de se lancer un défi ou de vérifier tout simplement si l'herbe est vraiment plus verte ailleurs. Et les motivations sont donc nombreuses. Alors l'Eldorado est-il vraiment ailleurs? Qu'est-ce qui nous attend quand on part s'installer à l'étranger? Comment réussir sa vie d'expatrié? On en parle aujourd'hui avec nos invités, d'ailleurs une première expat, Magdalena Silvetti Chalon, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Depuis quand êtes-vous en France?
Alors là, je viens d'arriver lundi dernier et je repars lundi prochain.
Et vous repartez à San Francisco?
À San Francisco, où j'habite depuis 11 ans.
Vous êtes heureuse là-bas?
Très heureuse.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage « Réussir sa vie d'expat, s'épanouir à l'étranger en développant son, en développant son intelligence nomade » aux éditions Erol, un véritable guide pratique. Pourquoi parlez-vous d'intelligence nomade?
Parce que c'est justement quelque chose qui touche l'individu et c'est pas forcément un projet qui est juste pratique. C'est surtout quelque chose qui est au niveau de l'être, de l'individu. Et c'est vraiment se retrouver soi-même et faire un voyage qui est plutôt intérieur, en fait.
Voilà. Et ne pas se tromper aussi sur les raisons qui nous poussent à partir.
Tout à fait. Et puis, bien se préparer.
Et bien se préparer, on en parlera avec vous et également avec Christina Giers. Soyez la bienvenue, Christina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef de vivrealetranger.com. Quel est l'objectif de ce site?
Alors, vivrealetranger.com de Studierama Pro, c'est un site pratique qui donne toutes les informations pour réussir son expatriation. Donc, on peut faire des recherches par destination et par problématique. Partir avec des enfants, partir avec un conjoint, partir seul, la sécurité sociale, les allocations chômage, enfin voilà, toutes ces thématiques-là sont abordées sur le site.
Ça fait partie de ce que Magdalena était en train de nous expliquer, hein. C'est-à-dire que vous répondez à toutes ces questions qui normalement qu'on devrait se poser en tout cas au moment de partir à l'étranger, dans l'idée de la préparation du voyage.
Idéalement, on devrait se les poser avant.
Voilà,
ça vaut mieux.
C'est ça, parce que non, mais ça évite les surprises et puis les véritables désagréments quand on est sur place et qu'on ne s'est pas renseigné, Magdalena.
Tout à fait. Et en fait, c'est les deux aspects qui sont vraiment complémentaires et qu'il ne faut jamais oublier. C'est qu'il y a une partie du faire, tout ce qu'on doit faire, et il y a une partie de l'être, tout ce qui est nous-mêmes et tout ce que notre disposition à partir à l'étranger.
Qui s'en va? Qui part à l'étranger? Quelles sont les raisons pour lesquelles on s'en va?
Alors, de plus en plus de personnes partent avec toujours un objectif de succès. On idéalise aussi souvent l'expatriation en disant qu'il y aura forcément un gain. Donc, c'est un gain au niveau des études, pour avoir un diplôme, au niveau de la carrière, mais aussi au niveau de la qualité de vie. Et maintenant, on touche de plus en plus de personnes, que ce soit des étudiants, des salariés ou des personnes qui veulent créer des entreprises, mais même aussi de plus en plus de retraités qui partent.
Et qui partent au soleil, on en parlera. Les destinations d'ailleurs pour les retraités aujourd'hui, c'est plus le Maroc?
Alors, les pays où il fait beau, forcément, on cherche un peu le soleil. Et accessoirement, où la vie est moins chère, parce que ce qu'on oublie parfois, on parle de soleil, mais on oublie parfois que le retraité part aussi, parce que du fait de sa petite retraite, voilà, son niveau de vie ici n'est pas forcément très agréable. Et du coup, c'est vrai qu'en allant, en s'éloignant un petit peu, il retrouve en fait un pouvoir d'achat.
Magdalena, est-ce que vous avez remarqué aussi que certains partent parce qu'ils en ont ras-le-bol, parce qu'ils en ont marre, parce que la vie est difficile, parce que c'est morose, parce que c'est la crise, parce qu'on est dans une société qui parfois aussi est en souffrance, et qu'ils en ont marre aussi de leur propre vie, de la famille et tout. Est-ce que c'est vraiment dans ces moments-là qu'il faut se poser la question très sérieusement de partir à l'étranger et surtout se poser les bonnes questions? Parce que moi j'ai le sentiment que on a tous eu à un moment donné cette envie tout à coup de prendre le large, de hisser la grand voile et dire ciao bye bye. Et en fait nos ennuis, pandémie nous emmerde, on les emmène au-delà de nos frontières. C'est même pire peut-être à l'étranger.
Tout à fait, complètement. Et en fait, le problème, c'est quand on se réfère au passé, oui. à ce qu'on laisse, et qu'on n'envisage pas vraiment la réalité de l'endroit où on va. Et c'est plus finalement un travail qu'on doit faire sur soi pour savoir ce qui nous manque, ce qu'on a besoin, et se connaître davantage pour pouvoir le trouver où qu'on soit.
Voilà, il faut faire attention hein, de ne pas partir. On ne peut pas fuir en tout cas. Quand on part, on ne fuit pas. Il faut avoir soldé certaines choses avant.
Et si je peux ajouter quelque chose, quand on s'expatrie, on pense toujours à ce qu'on va gagner, mais on pense rarement à ce qu'on laisse derrière soi. Et c'est vrai qu'expatriation avec l'idée de perdre derrière, mais la psychologue à côté en parlera mieux que moi, on perd une petite partie de soi, alors pour gagner plein d'autres choses. Mais voilà, c'était un petit deuil quand même.
Bon, dans un instant, on va partir au Vietnam. On va partir rejoindre Nicolas à Ho Chi Minh Ville. Vous, si vous vivez à l'étranger, si vous nous écoutez, je sais que vous êtes très nombreux parce que régulièrement vous nous laissez des messages sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à racontez-nous comment vous avez vécu ce départ, comment vous vivez cette nouvelle vie. Venez nous éclairer de votre expérience et puis nous donner un petit coucou de l'étranger, c'est toujours très agréable. On vous attend sur RTL en direct, à tout de suite.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Christian, nous apprenons tant de choses sur vous. Chaque jour, vous nous laissez des messages sur Facebook. Vous faites partie donc de la communauté En effet pour s'entendre. Et nous ignorions que vous avez vécu donc 7 ans en Allemagne. C'était une très bonne expérience, nous écrivez-vous. Très bon souvenir, quasiment 2 ans en Polynésie et un peu en Afrique également. Mon meilleur souvenir, la Polynésie, l'accueil de la population, les lagons bleus, les fonds sous-marins, la vie en mode tahitien. Effectivement, là-bas, on est un petit peu fiou, comme on dit. On profite du temps qui passe. Le pire souvenir, mon retour en métropole. J'ai eu l'impression de me retrouver dans un pays de sauvages et de fous. Voilà, Christian, toujours dans la mesure. Merci en tout cas pour les messages que vous nous laissez. Puisqu'aujourd'hui, on parle avec nos invités Magdanella Silvetti-Chaland et Christina Giers du départ de ceux qui décident un jour de faire leur bagage, de mettre leur vie dans des boîtes et puis de les emmener au-delà de nos frontières. Et parfois, on va très loin. Alors, on essaye actuellement de joindre Anna qui vit au Ghana. Mais figurez-vous que ça fait partie aussi de la vie Christina Giers. D'expatrier, c'est qu'on n'a pas le même confort et visiblement Internet passe difficilement là-bas, le téléphone aussi. Donc
oui, alors effectivement, il y a des coupures, ça fait partie, voilà, Internet fonctionne
un
une fois
confort.
Sur deux. Il faut le savoir.
Voilà, il faut savoir qu'on quitte un certain confort oui. en fonction des destinations.
Ce qui pose des problèmes pour les ados. Hein. Oui. Quand vous les emmenez au Ghana et que dans ce coin-là, oui. et qu'ils n'ont pas Internet, ça peut être compliqué.
Voilà, j'espère que d'ailleurs qu'on pourra parler avec Anna et qu'elle pourra nous raconter son quotidien. Mais auparavant, si vous le voulez bien, on va filer à Ho Chi Minh Ville, rejoindre Nicolas. Nicolas, bonjour, bienvenue sur RTL.
Bonjour Flavie.
Quelle heure est-il à Ho Chi Minh Ville ?
Il est 9h15 actuellement.
Oui.
Parce que le début de Paris, la nuit tombée il y a quelques heures maintenant.
Alors on essaie de mieux établir la communication parce qu'on vous entend un petit peu mal, Nicolas, mais bien évidemment, vous êtes au Vietnam, donc ça n'est pas forcément simple. Alors c'est vrai que moi, quand je lisais des livres et que j'entendais parler de Saïgon, la belle Saïgon, c'est vrai que je rêvais d'y aller. Qu'est-ce qui vous a motivé pour aller à Ho Chi Minh Ville ?
Alors, au final, c'était plutôt un choix par défaut. Au début, je voulais aller en Haïti.
Ah, Nicolas, ce qu'on va faire, c'est le début d'une émission qui est un petit peu particulière parce qu'on va essayer d'établir des communications avec le monde entier. On va vous rappeler, Nicolas, parce qu'on a un vrai problème de réseau, donc on va vous repasser un petit coup de fil. On va poursuivre en attendant notre conversation avec nos invités. Donc, les motivations, on en a un petit peu parlé, mais je voudrais quand même qu'on y vienne, Magdanella et Christina Giers. Aujourd'hui, on a le sentiment que les gens partent de plus en plus. Qu'est-ce qui fait que certains décident de faire ce grand saut, Magdalena ?
Alors déjà, il y a de plus en plus l'idée que l'expatriation, c'est obligatoire. Maintenant,
c'est fou, hein ?
Ça devient vraiment comme un passage obligatoire au niveau des études, au niveau d'une carrière. Et si on ne veut pas partir, ça devient bizarre. Mmh. Alors que non, c'est pas vraiment fait pour tout le monde. Il y a des gens qui sont plus disposés pour partir. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pour certains, ça demandera une préparation importante aussi.
Et le monde devient plus petit aussi. C'est ce qu'on s'expliquait hein, tout à l'heure. C'est vrai que, Christina, aujourd'hui, on a le sentiment qu'on peut voyager beaucoup plus facilement. Ça n'a pas des allures de périple comme ça pouvait le paraître il y a maintenant 30 ou 40 ans.
Oui, tout à fait. Puis on peut toujours garder la connexion. C'est vrai que ça peut être rassurant de se dire, avec Skype, on peut garder le contact avec ses parents, avec ses enfants. Parce que ces gens qui partent de tout âge ont chacun leurs problématiques. Vous avez le jeune qui va vouloir rester en contact avec sa bande de copains. Vous avez la personne de 40 ans qui a peut-être des parents âgés, qui culpabilise un peu à l'idée de partir. Donc, toutes ces nouvelles technos, c'est quand même très rassurant, parce que ça permet de garder un lien aussi.
Voilà, Internet en tout cas aide vraiment, et on a le sentiment que le monde est beaucoup plus petit. Qu'est-ce que ça apporte de vivre à l'étranger, Magdalena.
Alors ça apporte une grande ouverture et beaucoup de différences, mais justement, là où il peut y avoir une illusion avec ce monde qui semble rapproché, c'est qu'on oublie qu'il y a différentes cultures. Et que s'adapter aussi dans une autre culture, ça demande une connaissance, ça demande aussi finalement une plus grande curiosité pour savoir que c'est pas évident. C'est pas parce qu'on peut y aller facilement qu'on va s'adapter très, très facilement aussi.
Voilà, il y a différentes phases et d'ailleurs on pourra les expliquer un petit peu plus tard dans l'émission entre la phase d'évermement, c'est comme une histoire d'amour, hein. Après il y a une petite déception et puis après finalement on s'y fait très bien quand ça se passe bien évidemment. On a retrouvé Nicolas. Nicolas, vous ne bougez pas, on vous retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci de nous écouter de l'étranger. Un petit clin d'œil à David Introligator qui nous envoie des tweets. David, je t'embrasse. Alors aujourd'hui, donc, nous parlons de ceux qui ont décidé un jour de hisser la grand voile et d'aller vivre à l'étranger. Et on vient donc de retrouver Nicolas. On avait été coupé. Nicolas, vous êtes de retour ? Nicolas, en direct de Chiminville, Nicolas. Depuis combien de temps êtes-vous ici ?
Ça fait 14 mois que je suis arrivé à Ho Chi Minh.
Et comment vous sentez-vous ?
À l'aise. Honnêtement, c'est vite habitué au mode de vie vietnamien. Mmh. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout envie de rentrer en France.
Qu'est-ce qui vous a motivé pour partir ?
Parce que je voulais vivre une expérience à l'étranger. Je me suis rendu compte que j'étais assez jaloux de mes amis qui étaient déjà partis à l'étranger avant que j'y aille. Mmh. Et quand j'ai perdu donc, mon emploi à Paris, j'ai dû décider de partir vivre cette expérience, étant donné que j'étais célibataire et sans enfant.
Est-ce que c'est un départ que vous avez vraiment organisé ou est-ce que vous êtes parti un peu du jour au lendemain ?
Du jour au lendemain. J'ai pris ma décision un mois et demi avant de partir. Donc j'ai un petit peu tout organisé au dernier moment, mais finalement je ne regrette pas.
Donc ça fait maintenant 14 mois que vous vivez au Vietnam, Nicolas. Qu'en retirez-vous ? Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter de ces premiers mois passés là-bas et puis aussi de l'avenir tel que vous l'envisagez ?
Alors, ça s'est très très bien, ça s'est toujours très bien passé. Mmh. J'ai réussi facilement à m'acclimater au climat vietnamien et surtout à la culture vietnamienne. Les Vietnamiens sont très accueillants et font tout en sorte pour que vous vous sentez vraiment à l'aise dans leur pays. Donc, j'ai jamais vraiment ressenti le mal de mer, en fait, le mal du pays. Et concernant mon avenir, ben là, je suis en train de monter une start-up sur Ho Chi Minh City. Et donc, du coup, pour le moment, ben, l'avenir... Pour moi, j'ai comme projet de rester à Ho Chi Minh.
Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que votre départ, un peu du jour au lendemain, il y a un peu plus d'un an, est en train de s'inscrire dans une aventure dans la durée. Hein, c'est-à-dire que vous avez des projets là où vous êtes aujourd'hui.
Exactement. Quand je suis arrivé, je me suis dit peut-être que je vais rester maximum 3 mois. J'avais peur de ne pas trouver du travail. Donc finalement j'ai trouvé du travail très facilement et depuis ben je travaille toujours dans la même boîte en plus et là j'ai d'autres projets avec d'autres amis et donc j'ai envie de rentrer en France juste pour voir ma famille, mes amis qui me manquent, mais sinon sur le long terme je préfère rester sur Ho Chi Minh.
Alors Nicolas, quand on part en Asie, moi j'ai vraiment le sentiment qu'on perd beaucoup de nos points de repère. Est-ce que c'est ce que vous attendiez aussi de ce voyage ?
Oui, alors avant de partir en Asie, je m'étais dit que j'allais plutôt rester avec la communauté vietnamienne et pas forcément la communauté française. Et au final, on se rend compte qu'on se rapproche très facilement de la communauté française parce que c'est un moyen de garder en fait contact avec son pays d'origine. Mmh.
Ce fameux pays d'origine, vous nous disiez que par certains aspects, il vous manque. Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous que vous auriez bien aimé emmener si vous en aviez eu la possibilité ?
Mes amis, ma famille et surtout la cuisine française quand même.
C'est marrant parce que ça revient dans tous les messages. Hein, la gastronomie française, on sent que c'est vraiment là que se situe la nostalgie.
La cuisine vietnamienne est
oui,
vraiment
c'est bon.
Très bonne, mais le fromage...
Oui, c'est dingue.
Le fromage me manque vraiment.
C'est dingue parce que c'est un point commun que vous avez avec beaucoup de monde. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être aussi un jour faire leur bagage et aller tenter leur vie ailleurs ?
Alors moi, avant de partir, j'ai contacté pas mal de personnes sur via Expatblog, via Facebook, donc des personnes vietnamiennes, françaises ou même d'autres nationalités qui vivaient à Ho Chi Minh. Et ça permet en fait, quand on arrive, déjà d'avoir des points d'attache, de rencontrer ces personnes très facilement. Je les ai rencontrées très rapidement après mon arrivée et je suis toujours en contact avec eux. Et ça nous permet justement de ne pas se sentir trop mal, de ne pas avoir de ne pas être déprimé quand on arrive ici. Le fait d'avoir déjà de connaître du monde et d'avoir des connaissances déjà sur place.
De ne pas avoir ce sentiment de solitude là qui nous étreint et puis qui paralyse parfois, mais effectivement d'avoir des gens qui peuvent nous accueillir et nous guider. En tout cas, je vous remercie pour ces conseils, Nicolas. Je vous embrasse de très très loin.
C'est pas de problème.
Voilà. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets. Tenez-nous au courant. Allez-y. Allez-y, profitez de l'antenne.
Je voulais juste passer un bonjour à tous mes amis et toute ma famille qui doivent m'écouter actuellement. Et bien, c'est pour très fort à eux.
Ah, c'est chouette. Écoutez, le pigeon voyageur a fait son boulot. On vous embrasse, Nicolas, et on vous souhaite une bonne fin de journée. Et merci pour ces échanges. Salut, Nicolas.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci d'être avec nous. Vous venez d'entendre il y a un instant le témoignage de Nicolas. Nicolas qui vit à Ho Chi Minh Ville. On va en parler avec vous qui êtes nos invités, hein, Magdanella Silvetti-Chaland et Christina Girs, avant que je vous donne des nouvelles de Caroline qui vient de nous laisser un message sur Facebook. Magdanella, qu'est-ce que vous avez retenu du témoignage de Nicolas? Il a mis en avant énormément de choses importantes pour ceux qui voudraient partir.
Tout à fait. Et en fait, il parlait de coup de tête, mais en réalité, c'était un projet qu'il avait quand même anticipé et construit parce qu'il a déjà mis en place un réseau, et ça c'est extrêmement important d'avoir un réseau sur place pour pouvoir avoir des informations réelles sur la vie, sur ce qui va se passer et ne pas être isolé. Et en même temps, il avait aussi un projet professionnel qu'il construit actuellement, et donc il reste acteur de son expatriation. Et ce qui est très important, c'est rester vraiment tout à fait actif dans son projet et pas passif.
Alors il était peut-être actif aussi parce qu'il a 26 ans, parce qu'il est célibataire, parce qu'il est juste parti avec ses affaires. C'est une autre histoire aussi quand on décide de partir et que l'on est en famille, Christina Girs.
Oui, alors forcément, quand on embarque un conjoint dans son aventure
et
les enfants, c'est forcément plus compliqué. On sait aujourd'hui que environ 60-67% d'après les entreprises des expatriations, des missions à l'étranger échouent, non pas à cause du collaborateur ou du travail ou du pays ou de la nourriture ou il y a du fromage, il n'y a pas du fromage, tout simplement parce que l'entourage ne s'adapte pas. En premier lieu, la conjointe, encore la conjointe, dans 9 cas sur 10, c'est encore la femme
toujours
qui suit.
Toujours une histoire de bonne femme. Non, je plaisante, évidemment.
Alors, il paraît que ça bouge lentement, quand même.
C'est une blague. Voilà. Oui, mais moi, je me mets à la place de ces femmes qui, effectivement, alors, d'ailleurs, ça peut être l'inverse. Certaines femmes peuvent entraîner une famille et un mari, mais je me mets à la place du conjoint qui, lui, n'a pas de projet professionnel et qui arrive et qui doit quelque part subir les décisions de l'autre. C'est difficile.
C'est très difficile, surtout quand elle abandonne ici en France
Bien
un
sûr.
Bon poste, qu'elle a fait un certain nombre d'années d'études, enfin voilà, qu'elle a des aspirations un peu aussi, qu'elle a envie de s'épanouir professionnellement. Donc elle va tout abandonner pour suivre ce mari. Et là, parfois, c'est très très compliqué parce que se refaire un réseau professionnel, trouver un emploi, c'est pas toujours évident de travailler quand on n'a pas de visa, par exemple, quand on ne parle pas la langue. Donc oui, il peut y avoir une vraie souffrance, d'où l'intérêt de bien préparer ce départ en tant que conjointe, voire de se faire accompagner, ce qu'on voit beaucoup, ce qui se développe beaucoup, ma voisine pourra peut-être en témoigner, c'est du coaching. Donc, un peu comme un bilan de compétences avant le départ.
Voilà, pour ne pas être femme d'expat, mais pour être femme expat.
Tout à fait.
Magdalena, vous voulez réagir ?
J'irais même plus loin, c'est-à-dire que c'est un projet de couple qui avant, il faut partir en tant qu'équipe, c'est pas quelqu'un qui subit et quelqu'un qui va travailler, mais c'est vraiment deux personnes ensemble qui doivent être motivées pour le départ. S'il y a quelqu'un qui subit, elle devient passive et c'est là où ça devient difficile. Et le projet, ça peut être un projet personnel qu'elle va créer, pas forcément professionnel, mais se rendre compte qu'il va y avoir pour elle des bénéfices dans ce départ. Si elle le voit vraiment comme quelque chose où c'est uniquement négative, où elle va pas avoir quelque chose de positif pour elle, là, elle le vivra très très mal.
Caroline nous écrit « Je vis en Martinique depuis 13 ans déjà. On embrasse tous ceux qui nous écoutent depuis la Martinique. Une chance pour moi, j'avais envie de changer de travail. Je n'arrivais pas à faire le deuil de ma mère. Je ne supportais plus le froid. Cette nouvelle vie loin de mes proches m'a permis de grandir, de prendre confiance en moi, de montrer à mon fils que malgré les difficultés, je ne baissais pas les bras. Eh bien aujourd'hui, je suis mariée. Je suis épanouie dans mon travail. La vie au soleil est belle malgré les difficultés financières. On ne vit qu'une fois. Il faut donc foncer quand on a une telle opportunité. Hâte d'écouter cette émission comme chaque jour. Je sais que vous nous êtes fidèle, Caroline. » Caroline, elle nous parle de ses envies au moment où elle est partie. Elle ne supportait plus le froid, elle ne supportait plus son boulot. Et puis, elle était aussi dans une période difficile de l'existence puisqu'elle nous expliquait qu'elle n'arrivait pas à faire le deuil de sa maman. Est-ce qu'effectivement, il est certaines fractures de la vie qui nous poussent à partir, Magdalena?
Alors, parfois, c'est des occasions qui se présentent en disant c'est peut-être le bon moment, mais à la base, j'avais déjà envie de partir. Lorsque c'est juste un coup de tête où on ne s'est pas préparé et qu'on a une fragilité émotionnelle, ça peut être beaucoup plus difficile de voir finalement ce qui va se passer sur place parce qu'il y a des difficultés. Il faut être suffisamment fort finalement pour affronter les difficultés qu'on trouve sur place. Il faut voir les opportunités qui se créent. Donc c'est peut-être aussi quelque chose à mettre en place, mais c'est aussi une démarche active. Ça ne va pas tomber tout seul. Il faut être suffisamment fort pour pouvoir finalement se développer sur place aussi et voir que ça soit quelque chose de positif.
Et ce qu'on peut peut-être Christina. Ajouter, c'est que quand il y a un deuil à faire, on le fait, qu'on soit ici ou au bout du monde, au soleil ou dans le froid, et que, bon voilà, il faut laisser le temps au temps et partir... une fuite pour se retrouver finalement, pour retrouver les mêmes problèmes au bout du monde. Bon, ça se produit malheureusement assez souvent, donc effectivement bien réfléchir à ce qu'on veut faire et accepter ce deuil, puisque d'après ce que j'ai compris,
c'est le deuil ou un divorce ou une séparation, voilà, cette rupture. Certains partent aussi à l'occasion d'une séparation et pour tenter aussi, de poursuivre leur vie ailleurs.
Parfois, il y a des couples qui ne vont pas très très bien et qui partent en se disant, ça ira mieux.
On va réparer.
En fait, ça sera... Et là, parfois, on voit que les difficultés et les failles dans le couple vont être beaucoup plus fortes, en fait.
Oui, une bonne engueulade au soleil, ça vaut une bonne engueulade sous la pluie, de toute façon, c'en est une. Caroline, elle a insisté sur différentes choses. On va y revenir avec vous dans un instant. Une nouvelle vie loin de ses proches qui lui a permis de grandir. Le fait de prendre confiance en elle aussi, car c'est un défi que l'on se lance quand on décide de partir. On en parle avec vous, bien sûr, dans un instant sur l'antenne d'RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci d'être avec nous, où que vous soyez, quel que soit l'endroit d'où vous nous écoutez. Nous sommes avec Magdalena Silvetti-Chaland et Christina Girs et nous parlons aujourd'hui donc de la vie d'expat. Alors en même temps, certains nous écrivent en disant « moi ça fait des années et des années que je suis partie », notamment Nathalie qui nous explique qu'elle est à l'étranger en Angleterre depuis maintenant 24 ans. Elle était partie pour un an et puis elle a rencontré un Mauricien, elle est tombée amoureuse, donc ça arrive évidemment. Et sa vie a changé, elle s'est installée donc en Angleterre et elle nous explique qu'aujourd'hui finalement elle ne se sent plus du tout expatriée et elle n'est plus considérée comme une expat. Combien de temps durent les voyages d'expatriation?
En fait, c'est surtout comment on l'envisage. Lorsqu'on pense rester de manière temporaire quelque part, c'est une expatriation. Oui. Lorsqu'on pense s'installer vraiment et faire sa vie, c'est une migration. Donc, il y a une grosse différence dans la manière dont on représente notre séjour sur place à l'étranger. C'est pas forcément une durée, c'est surtout la démarche première, je m'installe parce que je veux m'implanter ou je suis là pour un moment plus ou moins long.
Christina ?
Oui, alors du côté des entreprises, bon, qui aiment bien mettre un peu des cadres, ils estiment qu'au bout de 5 ans, ce qui se passe souvent, c'est que les collaborateurs ont un contrat d'expatrié et au bout de 5 ans, on les passe en contrat local. Parce que les entreprises estiment qu'au bout de 5 ans, la personne aura du mal à revenir dans l'entreprise au même poste. Donc 5 ans paraît un peu un cap... qui vaut ce qui vaut, mais qui est considéré comme ça dans le monde des expats, pour les contrats en tout cas.
Beaucoup de messages que l'on reçoit aussi qui nous disent effectivement que le retour en France a été difficile. Est-ce qu'à partir, à l'idée de partir à l'étranger et le fait de le faire pendant plusieurs années ne nous rend pas finalement au retour assez apatride?
Ce qui est assez difficile lorsqu'on revient, c'est l'idée de retour. On a l'impression qu'on va retrouver ce qu'on a laissé de côté, notamment parfois les conjoints d'expatriés se mettent entre parenthèses lorsqu'elles partent pour 2-3 ans en se disant « je vais tout retrouver à mon retour de manière identique ». Et en fait non, on évolue soi, le pays change, on retrouve pas la même chose et parfois c'est difficile et ça s'appelle l'impatriation, c'est comme une nouvelle expatriation dans son pays d'origine.
En fait, on est étranger dans son pays d'origine et ça, oui, effectivement, ça peut être difficile à vivre.
On dit souvent effectivement expatrié d'un jour, expatrié toujours, parce que finalement on revient, donc c'est un peu un choc culturel inversé. Comme vous le disiez, le pays a changé et après, le récit que vous allez faire de toutes ces années à l'étranger à vos amis, enfin au bout d'un moment, vous peut-être que vous les saoulez aussi avec vos histoires. Donc c'est vrai, hein, on dit souvent qu'après on se retrouve entre expats parce que on se retrouve entre expats dans son propre pays.
À propos justement de se retrouver entre expats dans le pays dans lequel on va s'installer, est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est une bonne chose? Tout à l'heure, Nicolas Auchiminville nous expliquait, Magdalena, que quand il est arrivé, il avait déjà des contacts. Est-ce que le risque, c'est de pas forcément se retrouver dans une sorte de communauté de Français à l'étranger et de ne pas aller à la rencontre de l'autre et de ses différences?
Souvent, le risque, c'est de décider au préalable qu'on ne va surtout pas rencontrer des Français ou qu'on va être uniquement avec des Français et de se limiter finalement les opportunités d'élargir ses horizons sociaux. Et le mieux, c'est d'avoir les possibilités de faire les deux. Parfois, on a besoin de rencontrer des gens qu'on a la même culture, on peut partager des choses. Parfois, au contraire, on a besoin de s'intégrer au maximum pour pouvoir connaître l'autre. Donc, c'est pouvoir finalement jongler entre les différentes communautés culturelles.
Qu'est-ce qu'on apprend? Christina, pardon, je vous ai interrompu, après on reviendra sur ce qu'on apprend.
Il y avait juste un petit conseil à donner, c'était ce que vous dites est vrai. Donc, nouer un contact dès qu'on arrive. Souvent, on entend des expatriés qui disent « je vais attendre d'être bien installé pour commencer à recevoir, etc. » Et en fait, 6 mois d'installation sur 2 ans, c'est énorme. Et c'est beaucoup de temps perdu, donc le réseau, ça se construit tout de suite dès qu'on arrive. Et français, pas français, enfin voilà, il faut se lancer dans une dynamique. C'est très fatigant, mais on conseille de le faire assez rapidement.
Qu'est-ce qu'on apprend de nos différences? Tout à l'heure, Caroline nous parlait de cette idée de grandir, même à l'âge adulte, de prendre confiance en elle, le fait de s'affranchir aussi, peut-être, en partant loin de ses proches et loin de sa famille, qui, on le sait, est toujours un pilier ou peut avoir une influence sur notre existence. Est-ce que finalement, on ne devient pas une grande, grande personne toute seule quand on part à l'étranger?
Ça crée différentes opportunités aussi. Parfois, certaines personnes ont choisi un parcours professionnel parce qu'ils avaient finalement les parents qui avaient tendance un petit peu à leur dire « il faudrait que tu fasses ça ». Et à l'étranger, on est plus libre de décider et d'aller vers d'autres talents, développer d'autres talents qu'on a. Et puis en même temps, lorsqu'on part à l'étranger, il y a aussi des difficultés qui permettent de développer en soi une certaine résilience. On peut finalement savoir qu'on sort plus fort de ça, et avec des idées qu'on pouvait avoir un peu plus fermées, qui vont être finalement confrontées à une nouvelle réalité, et finalement se développer soi de manière beaucoup plus élargie.
On peut avoir aussi la nostalgie du pays dans lequel on a vécu. D'ailleurs, c'est Julien qui nous a envoyé une photo de sa voiture. Pardon, je rigole, mais une photo de sa voiture lorsqu'il est rentré d'Angleterre après 7 ans passés là-bas. C'est par Twitter, évidemment. Déjà 5 ans que j'ai quitté ma Grande-Bretagne adorée. Alors, en même temps, je trouve ça impressionnant parce que c'est vrai, quand on voit que notre vie tient dans un coffre de voiture, ça la réduit à finalement peu de choses. C'est assez impressionnant.
Oui, alors cette nostalgie, elle intervient peut-être au bout d'un certain temps. Elle n'intervient pas tout de suite. En général, il faut quand même un peu de temps. Donc là, je ne sais pas depuis combien de temps il est rentré.
5 ans.
Voilà.
Mais ça lui manque.
En général, il y a des caps comme ça, je crois.
Magdalena.
Il y a la notion de chez soi qui est vraiment une question qui est omniprésente pour tous les expatriés. C'est où est mon chez moi?
Ouais.
Où est-ce que je vais pouvoir retrouver ça? Et pour certaines personnes, assez immédiatement, quand elles partent et qu'elles n'avaient pas vraiment envie de partir, la nostalgie va être plus rapide. Et il faut savoir que finalement, un chez soi, ça peut être un lieu géographique, mais ça peut être aussi une émotion, ou ça peut être aussi des relations sociales. Lorsqu'on rencontre des gens qui viennent du même village ou de le même endroit, on a un petit bout de chez soi. Lorsqu'on peut manger, finalement, effectivement, des produits qui sont ceux qu'on avait l'habitude de manger chez ses grands-parents, ou ça va être notre petite Madeleine de Proust, et puis finalement, on retrouve chez soi.
Dans un instant, on va s'adresser à vous si vous êtes dans l'idée, dans l'objectif de partir. Sachez que nous allons vous parler des questions que l'on doit se poser et comment bien préparer justement son départ pour l'étranger. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
RTL. Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
Ah, Arnaud qui vient de nous appeler et qui nous explique qu'il a l'intention donc de s'expatrier. Surtout, soyez à notre écoute car nous allons vous donner toutes les clés. Et vous pourrez aussi vous rendre sur notre page Facebook après cette émission où Magali va vous préparer un bulletin avec toutes les infos justement si un jour vous souhaitez aller vivre à l'étranger. Jean-Seb nous a envoyé un tweet. L'important quand on part vivre à l'étranger, c'est de savoir que l'on a toujours un chez-soi possible en France. Magdalena,
ben moi je pense que c'est surtout important de se rendre compte que le chez-soi il est en soi.
D'accord.
Et que même si on part comme une multi-expatriation dans différents pays, on amène toujours finalement son chez-soi qui est nos valeurs, nos buts, nos talents.
Mais c'est vrai que c'est sympa de se dire aussi qu'on a une famille qui peut nous accueillir si on se plante quoi, si on est dans l'échec.
Oui. De toute façon, oui, il faut toujours avoir entre guillemets un backup, voilà. une route de secours et une solution de repli en cas de souci.
Alors les questions à se poser pour Arnaud. Et tous les autres qui veulent partir.
Alors, je dirais qu'elles sont de trois types de questions. Donc, il y a le plan personnel, professionnel et juridique. Alors, le plan personnel, c'est pourquoi ce pays? Souvent, on fantasme un pays, il y a du soleil, il fait beau, mais voilà, concrètement.
Et les nanas.
Voilà. Donc, moi, j'ai envie d'un exemple type. On dit souvent, je vais aller au Canada parce qu'on parle français et que c'est facile. Eh ben non, le Canada, ce n'est pas la France. Il faut parler anglais. Enfin, voilà, il y a quand même un petit choc culturel. Le deuxième plan, donc, c'est le plan professionnel. Effectivement, on part idéalement avec un projet, en sachant que créer son entreprise, c'est bien. Oui, mais dans certains pays, on ne crée une entreprise qu'avec l'aide d'un intermédiaire sur place. Dans d'autres, il faut avoir des autorisations diverses. Enfin, c'est assez complexe. Et le troisième plan, c'est l'aspect juridique. Hein. On en parlait, la question des visas, qui est quand même très délicate. On ne va pas comme ça, n'importe où, du jour au lendemain, comme on veut. Il faut des visas pour de nombreux pays. Et on a des retours de personnes plutôt jeunes qui partent comme ça et qui jonglent avec des visas touristiques, c'est-à-dire qui repassent la frontière tous les 3 mois. C'est le cas entre Hong Kong et Macao, aux États-Unis, pour se refaire faire un visa touriste. Mais on voit bien qu'à long terme, ce n'est pas tenable.
D'accord.
Quand on veut un projet.
Et on est dans l'illégalité lorsque l'on fait ça, il faut le préciser. Donc ça veut dire qu'on risque des poursuites.
C'est ça. Si on passe le cap des 3 mois, si on oublie de renouveler son visa, on est dans l'illégalité. Hein, donc je pense que des sanctions, entre autres, ne plus avoir le droit de mettre les pieds sur le territoire
à vie. Donc effectivement, ouais. C'est quand même dommage. Voilà. Magdalena.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, le plus important, c'est de imaginer que c'est un projet personnel qu'on va avoir, que ce soit pour celui qui a le contrat d'expatriation ou le conjoint. Il ne faut pas s'oublier du tout et être vraiment bien lucide sur ce qu'on veut retirer de cette expérience-là, pour soi-même ou pour les enfants ou pour la famille. Savoir vraiment ce qui est les bénéfices qu'on veut avoir de cette expérience.
Est-ce qu'il faut appréhender aussi financièrement? Est-ce qu'il faut partir en ayant vraiment de l'argent de côté?
Idéalement, si on peut au moins mettre de côté de quoi se payer un billet d'avion retour, hein, ça peut sembler idiot, mais
non,
on a le cas de personnes qui sont bloquées comme ça. Alors les consulats français connaissent bien le problème, parce qu'ils reçoivent ces personnes et qui n'ont plus rien. Donc à minima, de quoi se payer un billet retour, c'est pas mal.
Magdalena.
C'est aussi important de s'imaginer que ça va pas toujours être facile et qu'il va y avoir des difficultés, des moments même où on a l'impression qu'on en a assez, qu'on veut rentrer. Et à ce moment-là, savoir si c'est vraiment tout le projet d'expatriation qui est un échec, qui ne marche pas parce que ça n'a pas pris, ou si c'est à un moment où on doit remettre les choses au point, au clair, pour que redéfinir ce projet-là et que ça soit meilleur pour tout le monde.
Quelles sont les phases émotionnelles qui nous attendent lorsque l'on part vivre à l'étranger? Christina.
Alors traditionnellement, les experts parlent d'une courbe en U, c'est-à-dire qu'effectivement au début il y a cette lune de miel, cette phase où tout est super, c'est la nouveauté, on visite, c'est un peu comme des super vacances.
Ouais, ça fait
sauf
rêver.
Que les super vacances, ça ne dure pas. Et dans un second temps, il y a le fameux choc des cultures, donc là il y a une prise de conscience, accompagnée parfois d'une certaine désillusion. Et on passe souvent par cette étape, on dit au bout d'un an et demi à peu près.
Donc là, on peut avoir un coup de déprime aussi.
On peut avoir un petit coup de blues, on se pose des questions, son pays d'origine commence à manquer, enfin voilà. Et cette phase, si tout va bien, est suivie d'une phase d'acceptation et enfin par une adaptation. Et donc cette phase d'adaptation qui est la phase ultime, c'est la phase où finalement on fait un lien entre sa culture et la culture d'accueil.
Magdalena ?
En fait, ce qui est important de savoir, c'est que dans un premier temps, lorsqu'on part à l'étranger, c'est d'abord les questions du quoi et du comment qui vont d'abord être présentes, et ça va être autour du faire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre en place la maison, l'école, etc. Mmh. Et au bout d'un moment, ce seront des questions qui seront plus liées au qui et pourquoi. Et maintenant, je suis qui ici? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je veux faire? Et ce seront des questions au niveau de l'être et de l'identité qui vont apparaître à ce moment-là.
Combien de temps, selon vous, doit-on prévoir pour envisager son départ, pour pouvoir l'organiser dans les meilleures conditions?
Idéalement 6 mois, un an.
Idéalement, faire un voyage aussi, un premier voyage pour voir l'endroit, repérer et ne pas juste imaginer ce que c'est, mais se rendre compte vraiment, notamment avec les enfants. Les enfants ont besoin aussi de voir l'endroit où ils vont vivre. Donc
oui,
un premier voyage.
On n'a pas parlé des enfants, mais quand on les embarque dans ce genre d'aventure, il faut aussi, bien évidemment, prendre le temps de leur expliquer.
En sachant qu'il y a des âges plus ou moins faciles aussi.
Bien sûr, mais qu'ils s'adaptent aussi peut-être assez facilement parce que les enfants ont une souplesse et une capacité d'adaptation qu'on n'a pas forcément nous adultes.
Il y a quelques âges qui sont quand même des âges clés et un petit peu plus difficiles, qui sont 7, 13 et 18 ans. Et notamment à 7 ans, c'est là où on va être un petit peu plus dans l'environnement social. Donc lorsque les copains changent, ça peut être un petit peu plus difficile. 13 ans, c'est la puberté. Mmh. Donc là, on change soi énormément. Quand l'environnement change aussi, c'est déstabilisant. Et 18 ans, souvent, on part faire des études supérieures. Alors quand la famille part aussi, ça crée plus de distance.
Mathieu qui nous a envoyé un message. Je suis partie il y a 12 ans de France pour aller en Irlande en ayant pour but de voyager. Maintenant, j'y vis, j'ai une petite fille, j'ai une femme. Et plus que le voyage, je me suis trouvée. Merci pour ce message, Mathieu. Un clin d'œil également à Mathilde. Hello from Sydney. Il est quasiment 14h à Sydney. Il est quasiment 2h du matin. Expat depuis un an et demi. J'ai 27 ans et j'effectue un VIE avec mon entreprise. Voilà, donc on vous embrasse évidemment, vous qui êtes à Sydney. Et puis Maxime, savoir se détacher du matériel en tant qu'expatrié n'est pas facile tous les jours. Cela reste une sacrée organisation lors des déménagements, répétitions, changement de poste. Bref, tous les messages qui nous arrivent là. Et puis un clin d'œil à tous ceux également qui vivent aux Pays-Bas. À l'instar de Delphine qui nous écrit « Nous vivons à Amsterdam depuis quelques années. Ici, la vie est plus douce, plus calme, peu de voitures, beaucoup de vélos. La scolarité des enfants est très différente avec plus de jeux et peu de devoirs. » Et cette fameuse phrase que l'on retrouve dans tous les messages des expats. « Néanmoins, ma famille me manque ainsi que le bon vin et la baguette. » À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Voilà, je m'adresse à Arnaud et à tous ceux qui nous ont appelés, qui rêvent de s'expatrier. Nous allons laisser un bulletin sur notre page Facebook avec beaucoup de conseils. Faites attention car ça n'est pas anodin non plus de partir avec sa famille, vivre à l'étranger, vous l'aurez compris. Magdalena, Sylvetti, Chaland, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon retour à San Francisco, réussir sa vie d'expat, s'épanouir à l'étranger en développant son intelligence nomade aux éditions Erol. C'est votre ouvrage utile pour tous ceux qui nous écoutent. Merci.
Merci.
Et puis n'hésitez pas non plus à aller sur vivrealetranger.com. Vous y retrouverez toutes les infos qui sont nécessaires et qui vous permettront justement de réussir votre voyage. Merci Christiane Girs, à bientôt sur RTL.
Merci.
Et nous on se retrouve donc lundi. Pour l'instant c'est le week-end, permettez-moi de vous inviter très très fortement à écouter la famille Chédid. Ce sera demain à 15h chez Eric Jean-Jean. Et puis lundi vous ferez la connaissance d'Agathe. Agathe elle est bipolaire et elle nous racontera justement sa souffrance, sa vie, son existence. À lundi 15h en direct sur RTL. Tout de suite voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Moi je vous embrasse et je vous remercie pour votre fidélité. À lundi.
Vous écoutez RTL.